Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Avec MCM.
Mercredi 1er avril et le journal de la mi-journée présenté par Antoine Samoyau. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. La grève a démarré ce matin à l'OPT. Les négociations menées tard hier soir n'ont pas pu aboutir à la signature d'un accord. En revanche, du côté de l'hôpital, un accord a bien été trouvé hier soir, vous l'entendrez. Ce matin, les deux grèves en cours ne concernent donc que la CPS et l'OPT. En pleine période de grève, c'est un représentant du patronat que nous recevrons ce midi. Le patron de la CGPME, Christophe Plé, sera notre invité pour nous parler de son projet de réforme du statut des patentés. Et enfin, nous reviendrons en deuxième partie de journal sur le casting des Tahitian Voice saison 2 qui a eu lieu lundi soir. Le jury qui s'apprête maintenant à s'envoler dans les îles pour trois nouveaux castings à Raiatea, Nukuheva et Rangiroa. A tout de suite.
Et on démarre donc ce journal avec la grève qui a finalement débuté ce matin à l'OPT.
Les négociations se sont poursuivies jusqu'à minuit mardi soir entre la direction de l'OPT et les syndicalistes, mais sans succès. Les représentants du personnel réclament l'application du protocole signé en octobre dernier et le non-versement des 1,5 milliard de francs de dividendes au pays. Le protocole signé il y a 5 mois prévoit notamment la revalorisation de 2% du point d'indice des salaires ou encore l'augmentation des moyens humains et matériels. Sans accord, la grève a donc débuté ce matin. Une trentaine de salariés de l'OPT s'est réunie devant le siège social à Faleute pour lever le piquet de grève. Parmi eux, Teiva Chavez, délégué syndical du SAPOT, le syndicat majoritaire à l'OPT, affilié à la CSIP. Il explique que mardi soir, la direction a accédé à la plupart des points de revendication. Reste à régler la question des dividendes reversés au pays et la revalorisation des salaires. Écoutez Teiva Chavez, je vais y arriver, au micro de Tamara Sentis.
C'était, on va dire, la réunion de la dernière chance. Et malheureusement, on n'a pas trouvé d'accord. La direction générale a répondu sur la plupart des points, sauf les points sur les dividendes versés au pays et sur le réajustement des salaires des agents de l'OPT. On souhaite trouver un accord et qu'on respecte ce qui a été signé en octobre 2014. Prévoyez une présentation en conseil de 2% d'augmentation pour tous les employés. Et jusqu'à aujourd'hui, ce dispositif n'a pas été appliqué, alors qu'il a été présenté 3 fois en conseil avec 3 reports de cette décision. Donc c'est pour ça qu'hier soir, quand on nous dit qu'on va encore saisir le conseil, on a des doutes sur la finalité, puisque 3 fois ça a été reporté. Concernant les dividendes, là aussi, on souhaite avoir une position claire, puisque le dernier prélèvement des dividendes date de 2013, et on souhaite que pour les années qui viennent, 2014, 2015, voire 2016, le pays, on va dire, laisse l'OPT remplir ses missions de service public. On peut pas, d'un côté, pour nous, éprendre les dividendes et demander de grands changements. Et surtout après dire qu'on n'a pas d'argent pour réajuster les salaires des agents OPT qui, sur les 10 dernières années, ont été gelés pendant 7 ans.
Selon l'OPT, une vingtaine d'agents sur 84 a gardé porte close ce matin. Parmi elles, Papeete et Aroé sont fermés. La direction de l'OPT qui annonce que 40% de son personnel est en grève. Et puis dans le reste de l'actualité sociale, sachez que le centre hospitalier a lui évité la grève hier soir. Un accord a été signé vers 19h entre syndicats et direction. Mais pour Vaïté à Le Gaïc du syndicat autonome des personnels hospitaliers, les syndicats restent tout de même vigilants sur l'application propre du protocole. Écoutez là au micro de Vaïté Ourari Pambrin.
À 95%, nous avons une satisfaction des points qui ont été soumis par PAV du 26 mars.
Quels sont les 5% où ils risquent encore d'avoir des soucis?
C'est la mise en application du protocole. Il faut savoir qu'on signe un protocole d'accord entre les différents partenaires, mais après, il reste l'application propre du protocole qui a été signé.
Alors, vous allez leur laisser combien de temps pour qu'ils appliquent ce protocole d'accord?
Il y a eu des délais qui ont été effectués par rapport à certains points auxquels la direction a la main mise sur l'application de ces points-là. Il va juste rester 2 points qui concernent plus la fonction publique et le ministère du système, qui sont liés au statut particulier des cadres d'emploi et au concours à mettre en place pour la régularisation des contrats des agents qui sont en catégorie A, B, C, sont à l'heure actuelle à NT.
Et pour terminer sur l'actualité sociale, sachez enfin que c'est cet après-midi à 14h que le tribunal doit trancher sur la question du blocage du siège de la CPS par les grévistes. Nous y reviendrons évidemment dans notre flash de 16h et sur notre site radio1.pf.
En bref, l'architecte hawaïen Group 70 a présenté hier ses investisseurs pour le Mahana Beach.
Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le Group 70 avait annoncé avoir réuni 330 milliards de francs pour la construction du projet Mahana Beach de Punaoya. Group 70, c'est cet architecte hawaïen qui avait remporté le projet architectural du complexe hôtelier de la côte ouest mi-2014. Depuis, le gouvernement a choisi de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour trouver des investisseurs capables d'apporter le financement à ce projet. Group 70 a annoncé hier dans un communiqué les noms de ses investisseurs. Parmi eux se trouvent 5 entreprises de Tahiti, le groupe 3 Brasseurs, Imagine Promotion, la société polynésienne des eaux, l'entreprise MT2 et la société Gaz de Tahiti. Du reste, Group 70 annonce la participation du français Vinci, de Cofeli Polynésie, une filiale de GDF Suez, d'Aquatica, le développeur mexicain de parcs aquatiques, et enfin de Beauty Legend Holding Limited, une société diversifiée dans l'immobilier et l'énergie à Hong Kong et en Chine.
On reste sur le terrain économique avec notre invité Christophe Plé de la CGPME pour parler du statut des patentés.
Le Conseil économique, social et culturel a étudié hier la proposition de loi du pays visant à protéger le patrimoine des entrepreneurs individuels. Mais c'est un tout autre combat que souhaite mener aujourd'hui la CGPME. Son président Christophe Plé souhaite proposer une autosaisine au CESC pour proposer une réforme du statut des patentés. Christophe Plé qui est avec nous ce midi dans le studio de Radio 1. Christophe, bonjour.
Bonjour.
Alors expliquez-nous un peu pourquoi, selon vous, selon la CGPME, il est nécessaire de réformer ce statut des patentés en Polynésie.
Parce que vous l'avez vu dans les discussions qu'il y a eu au CESC hier et à l'adoption du texte, on n'a pas fait grand-chose pour ce statut de patenté. Je rappelle qu'il y a plus de 19 000 patentés en Polynésie française, ce sont donc des entrepreneurs individuels. Et aujourd'hui, nous avons besoin de reconnaître les métiers. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous allez à la chambre de commerce, vous allez vous inscrire demain, vous prenez une patente de plombier, vous êtes plombier. Vous prenez une patente d'électricien, vous êtes électricien. Vous pouvez être à peu près tout ce que vous voulez, sans exigence de formation et surtout sans formation obligatoire. Ce que souhaite la CGPME aujourd'hui, et c'est les propositions que nous avons formulées à Jean-Christophe Brissou, ministre de l'économie, c'est effectivement de revoir ce statut de patenté. Nous avons besoin d'aider nos patentés, de les former pour qu'ils soient mieux armés et puis pour qu'ils puissent un jour passer de patenté à employeur de salariés.
Alors quel changement vous voulez imposer concrètement?
Non, on veut rien imposer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, pendant les discussions, j'ai cru comprendre qu'aussi bien le collège des syndicats de salariés et le collège des associations m'ont interpellé en disant mais pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous déposez pas une autosaisine pour qu'on puisse s'emparer du sujet? Donc actuellement la CGPME va formuler ses propositions au CESC pour que le CESC puisse travailler et puisse donner des préconisations sur une éventuelle réforme.
Pour demander ensuite au gouvernement de prendre un projet de loi.
Voilà, je vous explique. En métropole par exemple, quelqu'un qui veut monter une entreprise, il a le droit à une formation gratuite, obligatoire. Sur la fiscalité, sur la gestion de son entreprise, sur le droit du travail. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, la Chambre de commerce peut et pourrait faire ses formations et je pense qu'il faut aider nos patentés à pouvoir affronter le travail et le développement de leur entreprise.
Et c'est un constat justement en Polynésie, ce manque de formation peut-être qui peut mener à une faillite de l'activité chez certains patentés.
Mais c'est-à-dire vu qu'on ne reconnaît pas les métiers, la problématique c'est il faut reconnaître les métiers. Les gens qui ont une expérience, les gens qui ont un savoir-faire, il faut les aider à le développer et il faut les mettre en valeur. Donc un bon électricien c'est un électricien parce que il a 10 ans d'expérience, parce qu'il a des diplômes en électricité, etc. Voilà, donc et ben c'est pour tous les métiers, c'est comme ça, il faut reconnaître les métiers, donc il nous faut une chambre des métiers, pas que du commerce.
On va suivre donc ce sujet dans les prochaines semaines, on l'imagine, d'abord donc au CESC, puis peut-être en le concrétisant du côté du gouvernement. Changeons de sujet, on profite de votre présence Christophe Plé pour parler des grèves, on en a parlé en ce début de journal. Quelle est la position de la CGPME qu'on n'a pas beaucoup entendu pour l'instant depuis le début de tous ces mouvements sociaux?
On n'a pas beaucoup entendu parce que la CGPME se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire la réforme de la protection sociale généralisée. C'est bien ça qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, on suit avec intérêt les grèves des grands groupes, surtout des groupes publics, hein, parce que je rappelle que c'est quand même des gens qui ont pratiquement une garantie d'emploi, hein, quand même, faut être honnête. Hein, c'est pas les entreprises du privé qui sont en grève aujourd'hui, loin de là, parce que aujourd'hui, la Polynésie, elle est toujours au fond de la vague. Je voudrais rappeler qu'on a perdu 10 000 emplois, qu'on est au niveau de l'emploi de 2002. alors qu'on est en 2015. Et donc, on fait plutôt... j'ai l'impression qu'il faut être un peu plus profil bas en attendant que l'économie reprenne. Alors bon, voilà...
on vous sent quand même assez critique hein, par rapport à...
Mais voilà, mais à parce, grèves. Parce que c'est toujours pareil. Nous, les entreprises du privé, enfin les salariés du privé, n'ont pas les moyens de faire la grève aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, vite, il faut réformer notre protection sociale généralisée. C'est quand même... les gens... les organisations patronales, en tout cas moi, des petites entreprises, qui disent qu'il faut aller sauver les retraites des salariés. Donc je suis le premier à vous le dire, il faut se mettre au travail, il faut travailler vite. On n'a plus le temps de faire des grèves à répétition et de faire de l'instabilité. Occupons-nous de notre économie en urgence.
Christophe Play, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans ce journal.
Il est 11h, on fait une pause dans le journal, on revient pour parler Tyson Voice et sport. Retour au journal, Antoine, et on reprend avec les castings de la saison 2 Tyson Voice qui vont bientôt se dérouler dans les îles.
Les castings de la saison 2 donc de Tyson Voice qui ont repris lundi soir dans les locaux de Radio 1 après une première sélection la semaine dernière. Lundi, ils étaient donc 50 à espérer leur ticket pour la suite de l'aventure. Le jury de Tyson Voice a finalement sélectionné 19 candidats à l'issue de 6 heures d'audition. Mayata Banner, productrice de Radio 1 et membre du jury de présélection, note que le niveau est monté d'un cran par rapport à la semaine passée. Écoutez-la au micro de Samia Stambouli.
Au niveau déjà de la première soirée de casting, donc du lundi 23, on a eu un niveau qui était un peu plus faible, un peu plus moyen, si on peut dire ça dans l'ensemble, par rapport au casting du lundi 30. Donc déjà au niveau des chiffres, on a sélectionné 11 personnes le premier soir et 29 le deuxième soir. Donc quasiment une personne sur deux. Le niveau était très 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 élevé la seconde soirée de casting. Bon, on a eu bien sûr quelques personnes qu'on n'a pas pu faire passer, mais dans l'ensemble, c'était beaucoup mieux et même mieux que l'année dernière.
Au-delà du niveau, Tyson Voice saison 2 continue son virage musical made in Fénois et les candidats ont répondu à l'appel du jury qui a souhaité entendre davantage de chansons polynésiennes.
Sans aucun doute, un typé local par rapport aux chansons qui ont été présentées. Donc je pense que les candidats ont bien compris que cette année, on était vraiment sur une recherche de talents bien locaux, bien tahitiens, sans bien sûr oublier qu'on va leur proposer de faire des chansons internationales, donc en anglais ou en français. Donc déjà sur la soirée du 23 et du 30, on a essayé d'avoir deux chansons a cappella par personne pour pouvoir justement regarder leur niveau autant en tahitien qu'en français ou en anglais.
La prochaine étape de ces castings aura maintenant lieu dans les îles. L'équipe de Tyson Voice mettra le cap le 17 avril vers Nuku'iwa. Le 25 avril, le jury sera à Raiatea. Et enfin, les castings se termineront à Rangiroa le 8 mai. Pour le directeur de Radio 1, Frédéric Dubuis, il s'agissait de permettre justement plus d'équité pour les candidats dans les îles.
Compte tenu déjà de la qualité des candidats à Tahiti, on s'est dit que forcément il y avait la même qualité ailleurs. Il se trouve qu'en plus à Tahiti, on a souvent l'occasion d'accueillir notamment des groupes marquisiens ou des gens qui viennent des Marquises et qui chantent très très bien. Mais lors des castings, on accueille aussi des gens de tous les archipels qui chantent très bien mais qui vivent à Tahiti. Le problème, c'est que les gens des archipels, ils peuvent pas venir au casting parce qu'il faut payer les billets d'avion, que c'est très cher et qu'il était important pour nous de monter un partenariat avec Air Tahiti et c'est grâce à eux qu'on peut mettre en place ce casting, il faut le dire. Et puis c'était important naturellement d'organiser le casting au moins dans trois archipels. Donc les îles sous le vent, les Tuamotu et les Marquises à Nuku'iwa.
Et pour terminer, sachez qu'un dernier casting sera organisé le 7 avril à Tahiti. Seules 6 places seront disponibles et en tout 40 candidats seront attendus pour passer les auditions à l'aveugle lors de deux grandes soirées qui seront organisées au Royal Tahitien les 24 avril et 5 juin.
Et avant de passer au sport, on s'éloigne un court instant du Fénois pour revenir sur l'élection du président du gouvernement calédonien hier.
Philippe Germain, entrepreneur de 48 ans et membre du parti Calédonie Ensemble, a été élu hier président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cela faisait plus de 3 mois qu'aucune majorité n'arrivait à se dégager du gouvernement collégial de Nouvelle-Calédonie. Je vous rappelle que ce gouvernement est composé de 5 indépendantistes et 6 non-indépendantistes. Un gouvernement qui avait déjà échoué à de nombreuses reprises à élire un président, principalement à cause de la division des non-indépendantistes. Mais hier, le Front de Libération Nationale Kalak Socialiste, le FLNKS, a publié un communiqué jugeant inacceptable l'immobilisme des institutions et appelant à la mise en place place d'un gouvernement opérationnel. Le haut-commissaire de la République a alors convoqué une réunion du gouvernement et c'est Philippe Germain qui a été élu président avec les voix de Calédonie Ensemble et d'une partie des indépendantistes. Une élection qui a suscité de vives et immédiates critiques des autres partis non indépendantistes mais aussi d'une partie des indépendantistes. Comme quoi il n'y a pas qu'en Polynésie que c'est compliqué la politique.
C'est clair. Allez, ce coup-ci c'est bon, on passe au sport.
Premier sur le sport avec sporttahiti.com.
Et au programme du jour, on parle taekwondo, natation et football américain. Mais juste avant cela, place à l'information de nos représentants tahitiens à l'international.
Yorana à tous, en effet, on débute notre actualité avec de la natation à l'international. Anthony Clark et Nicolas Vermorel sont actuellement Limoges pour les championnats de France de natation. La première journée de compétition a démarré hier avec de belles performances de nos représentants. Anthony Clark réalise un temps de 25 secondes et 95 centièmes sur les séries du 50 mètres papillon, ce qui lui permet de décrocher un premier minima pour les Jeux du Pacifique 2015 de Port Moresby. Nicolas Vermorel, quant à lui, décroche la seconde place lors de la finale jeune et réalise un chrono de 25 secondes et 54 centièmes. A noter qu'il s'agit de la cinquième meilleure performance française de tous les temps des saisons sur le 50 mètres papillon. On continue à l'international, mais en taekwondo cette fois-ci. Week-end dernier, Teddy Teng a remporté une médaille d'argent à la 19e édition de l'Open International d'Alsace, un événement de renommée mondiale qui a regroupé plus de 550 compétiteurs. Un nouveau titre pour notre représentant tahitien qui ne fait que confirmer son talent, car je vous le rappelle, il a déjà remporté la 3e place au championnat de France universitaire il y a 2 semaines à Mulhouse.
Et on continue toujours avec du taekwondo, mais à Rayatea cette fois-ci, et on termine par du football américain.
En effet, week-end dernier, près d'une centaine de compétiteurs issus des 11 clubs affiliés à la Fédération tahitienne de taekwondo et disciplines associées se sont donné rendez-vous dans la salle de Uturoa pour la Coupe des Rarumatei. Répartis dans au moins 50 catégories, allant des benjamins jusqu'aux vétérans, les taekwondoïstes se sont donnés à cœur joie pour montrer toutes leurs qualités. Le club organisateur, la STKD Taputapuatea, a sorti son épingle du jeu en remportant pour la seconde année consécutive la compétition, avec un total de 13 médailles d'or, 9 d'argent et 2 de bronze. Elle devance le TKD Nahiti de Haroué, qui totalise 10 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze. Le TKD Tairapu West complète le podium par équipe, avec 8 médailles d'or, 4 d'argent et 2 de bronze. Et sans plus attendre, on enchaîne avec la rencontre de Foot US qui s'est disputée samedi dernier sur le stade de la Punaru. Le premier match de la saison fédérale opposait les Barracuda du club Uno Football face au club de Manura. Manura remporte la victoire sur un score de 28-8 en inscrivant 4 touchdowns. Pour les passionnés de ce sport, sachez que le prochain match se déroulera vendredi 10 avril au stade Punaru à partir de 19h. Les Uno Football rencontreront les Tuaviri. Et voilà, c'est le moment de se quitter. Retrouvez tout le reste de l'actualité sportive du Fénois sur www.sporttahiti.com.